Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi le 26 mars, il est 8h32. Alors, si vous êtes en direct avec nous, donc écrivez « Je suis en direct ». Si vous êtes en replay, écrivez « hashtag replay », comme ça on va savoir que vous l'avez écouté avec nous. Alors, Jean-Philippe et moi, aujourd'hui, on continue de couvrir le livre qui s'appelle « Développer le leader en soi », donc 2.0. C'est un livre de John Maxwell, c'est un livre sur le leadership. On est au chapitre 7, on parle de leadership de servitude. Alors, présentement, on est en train de couvrir, c'est quoi le leadership de servitude, en fait? C'est, tiens, ça nous rappelle cette icône. Donc, Madame Brownie Wise. Brownie Wise, c'est celle qui a mis sur pied le party à domicile donc de Tupperware. Donc, grâce au génie de Madame Wise et le génie, donc, de Earl Tupper. Donc, ils se sont alliés ensemble. Alors, elle s'est dit, ben, on va justement faire le party à domicile pour faire découvrir le produit. Puis, dans le fond, une de ses grandes phrases qui reste que c'est associé au leadership, justement, de servitude, elle le dit, donc, build the people and they will build the business. Donc, elle dit, investissez dans les gens, puis les gens, ils vont bâtir votre entreprise, en fait. Okay? Donc, ce qu'elle disait, c'est donc former les gens. Elle disait aussi, par exemple, quand tu donnes la main à quelqu'un, puis tu l'aides à monter vers le haut, mais par le fait même, par le geste, quand tu tires quelqu'un, donc tu vas allonger toi-même, donc par le fait même, donc de tirer quelqu'un vers le haut, mais par le fait même, ça t'élève toi aussi vers le haut. Donc, quelle sagesse cette Brownie Wise-là? Alors, dans le leadership de servitude, on est en train de couvrir des questions qu'on se pose à soi-même, en fait, pour devenir justement donc des meilleurs leaders, donc au service des gens. Et on est en train de couvrir donc la question numéro 5 qui dit, dans le fond, c'est la question de l'angle mort. Qu'est-ce que c'est pour les gens de travailler avec nous, en fait? Puis, quand vous savez, quand on est un leader, quand on est dans une position de leadership, dans une position d'autorité, en fait, bien, on n'a pas le portrait juste de ce que les gens pensent. Okay? Donc, même si on pose des questions, souvent, on va entendre des réponses qu'on aime entendre, en fait, qui nous font du bien, qu'on sont en concordance avec nous, en fait, plutôt que de confronter nos idées. Mais pourquoi? Mais parce que les gens peuvent justement dépendre leur paye, par exemple, dépend souvent du leader. Leur avancement va dépendre d'un leader. Alors, dans ce cas-là, tu comprends que tu dois ménager la chèvre et le chou. Tu ne peux pas vraiment dire la vérité. OK? Ben nous, dans notre MLM, c'est pas vraiment comme ceci. Donc, même si tu en as des plus grosses que quelqu'un d'autre, ben ça marche pas comme ça. T'sais? Donc, c'est vraiment au mérite puis au résultat, dans le fond, qui vont fonctionner. Bref, ce qu'on veut vous dire, c'est que les angles morts, en fait, ben on a besoin, dans le fond, de savoir qu'est-ce que les gens pensent vraiment. Puis là, j'ai un exemple à vous donner, c'est qu'un jour, Maria, elle a une idée. Puis là, elle dit, si je veux vraiment voir si mon idée est bonne, elle dit, je dois trouver quelqu'un qui va vraiment me donner l'heure juste. Donc, elle pense à son amie, Lynn Harley, qui est une de ses amies, puis elle a été directrice avec nous il y a longtemps, en fait. C'est celle, dans le fond, que je découle. OK, ça fait 17 ans que je suis là. Elle était même plus là, là, quand, OK, tu comprends? Fait que là, elle a fait venir Lynn, puis là, elle lui a partagé son idée. Puis là, Lynn, avec toute sa délicatesse, elle a fait un chop-chop-chop-chop-chop. Elle a tout, ben voyons donc, qu'est-ce que tu penses? Ça marche pas, cette affaire-là. Fait que bref, ça a fini que l'idée, on n'a jamais entendu parler. J'ai jamais eu de révolution. C'était pas une bonne idée, probablement. Puis Lynn Harley, elle a tout taillé ça en pièces, en fait. Fait que bref, c'est ça. Fait que des fois, les leaders, ils ont besoin de savoir, dans le fond, qu'est-ce que vraiment les gens pensent, OK? Tu comprends? Pour pouvoir avancer, en fait. Là, une des façons qu'on s'est donné maintenant, c'est que Maria travaille avec, elle appelle ça le A-Team, en fait. Donc, tous les vendredis, on se réunit ensemble le matin pour pouvoir préparer le prochain meeting du jeudi, en fait. Et dans cette rencontre-là, ben on a la chance d'exprimer aussi nos opinions. Donc, s'il y a quelque chose qui a bien été, ben on va le dire. Mais s'il y a quelque chose qu'on veut améliorer, qu'on veut corriger, ben on va le dire. Si on croit qu'on fait fausse route sur certaines choses, ben c'est la place qu'on peut s'exprimer puis qu'on peut le dire puis que Maria est prête à l'entendre aussi, tu comprends? Fait que, bref, c'est une façon justement qu'elle s'est trouvée, dans le fond, de s'associer à des gens aussi qui pensent différemment, des gens qui vont être complémentaires, donc à ses forces, en fait. Fait que c'est une belle façon, justement, de pouvoir pallier à ceci, en fait. Alors, quand on a, justement, les angles morts, ben on a besoin du feedback honnête des gens pour savoir c'est quoi, dans le fond, qu'on doit améliorer. Puis, une autre histoire qui m'a fait rire, donc j'écoutais, donc... John Maxwell qui racontait sa secrétaire. Il dit, en écrivant ce chapitre-là, il dit, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est mes blind spots à moi, c'est quoi mes angles morts, en fait. Fait qu'il a demandé à plein de gens avec qui il travaille, donc, et il demande à sa secrétaire, puis il dit, tiens, il dit, je voudrais que tu te prennes un bout de papier, puis à chaque fois que tu as une idée de qu'est-ce que, c'est quoi des faiblesses que j'ai, en fait, je voudrais que tu les notes sur un bout de papier. Elle dit, non, elle dit, moi, je suis prête, je n'ai pas besoin d'une semaine pour penser à ça, là. Je suis toute prête. Elle dit, ah, ouais, un peu décontenancé, en fait. Elle dit, oui, elle dit, je te connais, elle dit, ça fait 20 ans que je travaille avec toi. Elle dit, je sais que tu es une personne impatiente, tu sais. Elle dit, aussi, tu vas toujours penser que les choses vont se faire dans un temps X, mais finalement, ça se fait dans un temps Y. Tu donnes jamais assez de temps pour qu'on puisse faire les choses. Tu penses tout le temps que les gens sont alignés avec ta vision. Elle dit, toi, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais les gens, ils sont pas nécessairement ralliés encore à cette vision-là. Mais toi, tu avances, là, c'est ça. Fait que tu ne te soucies pas, donc, que tout le monde soit vers cette vision-là. L'autre chose, elle dit, tu bouges rapidement tu passes rapidement par-dessus les difficultés. Donc, nous, on est encore dans la difficulté, mais toi, t'es déjà comme pas mal en avance. Fait que, il y a des belles qualités, tu comprends? Il y en a que ce sont des défauts qui sont quand même des belles qualités. Mais tu comprends que ça peut, il y a besoin d'entendre ceci, en fait. Fait que de cette façon-là, il y a le pouls de son staff, en fait. Il sait vraiment, donc, qu'est-ce que les gens vivent, qu'est-ce que les gens, comment ils le voient, en fait. Mais pourquoi? Bien, c'est parce qu'il a posé la question puis il a voulu entendre aussi ce que les gens avaient à dire. Fait qu'il dit, une façon de le faire, en fait, c'est de dire aux gens, bien, de poser la question, donc, qu'est-ce que c'est pour de se mettre dans tes souliers, en fait, là, donc d'être de l'autre côté de la table puis de travailler avec moi. C'est quoi tu vis de travailler avec moi, en fait? Fait que c'est sûr que on ne sent pas bien d'entendre ça. Des fois, ça peut faire mal. Mais dans le fond, c'est dans l'espoir de s'auto-corriger puis de devenir une meilleure version de soi-même, en fait. Alors justement, si on veut rencontrer notre monde, si on veut rencontrer des gens qui ont de l'influence, en fait, puis qui vont avoir de l'influence sur nous, bien, c'est pas tout le monde, tu sais. Ça prend quand même des résultats pour qu'on puisse écouter des gens. Donc, Jean-Philippe va justement nous couvrir cette partie-ci, donc des questions qu'on peut poser pour justement découvrir nos angles morts.
Yes, merci Sylvain! Bon matin tout le monde! Donc, oui, c'est première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut sélectionner les gens à qui on va poser ces questions-là. Parce que on veut savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et en réalité, savoir comment qu'on peut les accompagner, ils vont nous faire part de nos angles morts. Donc, de c'est quoi peut-être en ce moment qui fonctionne et qui fonctionne pas. Donc, non, je pose pas cette question-là de manière ouverte à tout le monde. On travaille souvent avec ce qu'on appelle le principe de Pareto. Donc, c'est-à-dire le 20-80. Donc, je vais travailler avec, en général, davantage 20 % des gens qui génèrent 80 des résultats. Donc, ces personnes-là, ça veut dire que c'est des gens qui sont dans l'action. Donc, ils sont en train de développer leur expérience. Donc, c'est à eux que je vais poser ce type de questions-là dans le but de pouvoir comprendre et corriger, moi, mon support, ma forme de coaching ou de mentorat que je leur offre. Donc, pour ça, on a laissé, en fait, j'ai trouvé différentes questions qu'on peut poser. Puis vous allez voir, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les questions, c'est une forme de jeu. Donc, un, c'est de comprendre qu'est-ce que la personne, en fait, veut pour savoir ensuite quelle forme de soutien est-ce qu'on lui apporte déjà ou on peut lui apporter. Donc, vous allez voir, il y a 4 sections. Donc, puis il y en existe bien d'autres, des questions, mais on a 4 sections principales aujourd'hui pour vous aider à voir le type de questions qu'on peut poser pour avoir ce feedback-là. Donc, la première section, c'est par rapport, en fait, aux objectifs et à la progression. Donc, première question à poser, c'est quels sont tes objectifs présentement et comment te sens-tu par rapport à l'accomplissement et à la progression de ceux-ci? Bien évidemment, si je veux savoir quelle forme de soutien je peux offrir ou que j'offre ou que je n'offre pas en ce moment, il faut que je sache c'est quoi leur objectif? Parce que si je ne le sais pas, bien évidemment, c'est difficile d'offrir un soutien de qualité. Donc, un, on veut savoir, eux, qu'est-ce qu'ils veulent. Deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à retirer des obstacles ou à accélérer ta progression vers l'atteinte de ces objectifs? Donc, ici, cette question-là, c'est un, comment est-ce que je peux faire en sorte que ta vie soit plus facile et comment est-ce que je peux accélérer ton processus? Donc, ça, c'est une manière de pouvoir avoir le feedback et d'indiquer à la personne, oui, je veux pas juste que tu l'atteignes. Si tu es capable de devancer la tête de cet objectif-là avec un support, avec une aide et que ensuite tu es capable d'atteindre un prochain objectif, là, la personne, comme Sylvain l'a dit, quand on aide quelqu'un à atteindre le succès, nécessairement, nous aussi, on s'en rapproche. Donc, elle peut viser un autre objectif. Deuxième section, on va parler en fait de la communication et de la rétroaction. Donc, ici, les questions sont, est-ce que tu te sens confortable de communiquer ouvertement et honnêtement avec moi? Donc, c'est un peu la question qui tue. Et bien évidemment, ici, le langage physique, l'hésitation, la réaction, la spontanéité peut être aussi un très bon indicateur à cette question-là. Donc, ensuite, l'autre question qu'on peut poser, c'est quelle sorte de rétroaction trouves-tu le plus utile de ma part? Donc, comme vous êtes en train de le constater, ici, c'est vraiment, en fait, on est en train de mettre en contexte et on est en train d'utiliser un vocabulaire qui est précis. Parce que je me souviens, il y a de cela 4 ans, dans les débuts qu'on était dans le podcast, on a couvert un livre qui s'appelait Le Millionnaire Minute. Et, il me semble que c'est ça le titre, là, je me souviens plus, il y avait un papillon là-dessus. Et ça disait, OK, la grandeur de tes questions va donner la grandeur des réponses que tu recherches. Donc, qu'est-ce qui est important ici, c'est que le leader comprenne que si on a une question qui est floue, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est une réponse qui est floue. Donc, pour pouvoir avoir de la précision, c'est d'être capable de mettre en contexte. Donc, de dire, quelle sorte de rétroaction aimes-tu le plus de moi ou que tu trouves le plus, la meilleure? Donc, la personne n'a pas le choix d'être capable de retrouver des moments ou des contextes. Puis finalement, elle n'en trouve pas, puis dire, je suis pas capable d'en trouver. Là, on est capable d'avoir un indicateur sur « oh ». Donc, je n'offre peut-être pas la bonne forme de soutien. Prochaine question, toujours dans la communication et la rétroaction. Est-ce que tu trouves que je te donne des indications, une rétroaction claire et que tu peux mettre en action? Donc, si finalement on donne une rétroaction, mais la personne peut jamais passer à l'action, finalement, c'est que c'est pas contextualité, c'est que c'est peut-être trop abstrait pour la personne. Donc, n'oubliez pas, la grandeur de vos questions va déterminer la grandeur des réponses que vous allez obtenir. Ensuite, dans l'apprentissage et le développement, OK? Quels sont les apprentissages et le développement les plus importants dans ton rôle en ce moment? Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on demande à la personne, est-ce que tu le sais qu'est-ce que tu as à faire? Et bien souvent, ça va nous permettre de revenir à des bases et de déterminer, OK, quelle est ta description de tâche? Quelles sont les actions qui t'amènent vers le succès? De revenir vers les bases et de faire en sorte que finalement, les réponses ou les directions qu'on donne soient davantage plus claires. Est-ce qu'il y a des habiletés et des connaissances spécifiques que tu aimerais développer dans le futur? Donc ici, on veut permettre et savoir la personne qu'est-ce qu'elle veut, pour connaître, nous, quelle est la forme de soutien qu'on va être capable de lui offrir dans le futur. Et est-ce que tu te sens en ce moment stimulé dans ton travail? Donc ici, ça va te permettre de savoir est-ce que les défis, les tâches que tu donnes aux gens sont stimulantes et les permettent de, un, rester occupé et de rester engagé aussi dans leur processus. Finalement, la dernière section des types de questions qu'on peut poser, c'est ce qu'on appelle la satisfaction en général. Et ça, c'est une des questions que j'adore poser sur une échelle de 1 à 10. Donc, quand on pose cette question-là, 1, il faut que vous déterminez 1 c'est quoi et 10 c'est quoi. Donc, sur une échelle de 1 à 10, comment trouves-tu que je t'offre, comment qualifierais-tu le service que je t'offre en tant que coach? Donc, ici, la personne, va juger son évaluation sur toi sur une échelle de 1 à 10. Et peu importe ce qu'elle va nommer, que ce soit un 6, un 7, un 8 ou un 9, rares sont les fois qu'on va obtenir un 10. On ne veut pas nécessairement obtenir un 10. Ce n'est pas ça qu'on recherche. On veut savoir, OK, mettons qu'elle me dit 7. Et là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que en fonction du chiffre qu'elle me donne, si elle me dit 7, ça veut dire qu'il y a place à l'amélioration et qu'elle a des idées dans sa tête d'éléments que, en ce moment, ne répondent pas à ses attentes. Donc, moi, je peux lui poser la question. Donc, tu viens de me dire 7 sur le coaching que je t'offre. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je te fasse passer à un 8? Qu'est-ce que ça prendrait pour que je te fasse passer à un 9? Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse t'amener à un 10? Donc, ça nous permet vraiment d'être capable d'aller cibler des éléments spécifiques ici et de venir chercher ce qu'il y a réellement en ce moment entre les deux oreilles que peut-être elle n'a pas eu la chance de dire dans des questions précédentes, dans des réponses précédentes. Donc, avec ça, on va pouvoir lui dire quelle est une chose que je pourrais faire de manière plus effective et efficace pour te coacher. Donc ici, on va venir chercher de c'est quoi que ça prend pour que je te fasse monter de au moins 1 sur l'échelle de 1 à 10. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me partager ou que tu voudrais apporter à mon attention qu'on n'a pas couvert? Bon, quand tu es à l'université, cette question-là, c'est comme la question tabou. Quand le prof, à la fin, dit, il a terminé sa matière, il dit, là, j'ai terminé ma matière, mais on a terminé à l'avance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? Et là, tout le monde, on est comme, pose pas de questions, on veut partir. En coaching, c'est différent. En tant que coach, il faut que tu la poses parce que ça se peut que la manière dont tu as posé ta question, la spécificité, le vocabulaire que tu as utilisé n'ait pas permis à la personne devant toi de t'apporter certains éléments. Donc ici, avec cette question-là, on veut être capable de permettre à la personne de nous apporter toutes ses inquiétudes. Donc, ça, c'est les types de questions. En général, il y a ce qu'on appelle un savoir-être à développer lorsqu'on est dans une situation de coaching et de mentorat. Donc, je vous donne 4 éléments à considérer lorsqu'on pose ces questions-là. 1, les questions, il n'existe pas juste ceux-là, il faut que ce soit des questions qu'on appelle ouvertes. Donc, pas des questions, en anglais, on appelle ça des yes-no questions. Donc, ça ne peut pas juste être des questions qui se répondent par oui ou non. Parce que oui ou non, il a répondu à la question. Donc, si, des fois, ça l'arrive, on n'a pas le choix de poser la question oui ou non, mais d'être capable d'avoir une question après, d'accord, est-ce que tu peux élaborer? Quelles sont les situations? Quelles sont les actions? Quels sont les éléments qui te font dire oui? Quels sont... Donc, d'avoir des questions ouvertes. Donc, des questions ouvertes, on parle de quoi, qui, quoi, comment, où, pourquoi, comment. Je ne sais plus, j'ai dit comment. Bref, les ça, là. Tu sais, je me souviens plus de ces questions-là. Là, c'était le 3QPOC, si je ne me trompe pas. Qui, quoi, comment, pourquoi, où, puis ça, là. C'est ça. Qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. 3QPOC. Ah ah! OK? Fait que ça, c'est ce qu'on appelle des matières de secondaire. OK? En histoire, on utilisait ça. Fait que bref, ces questions-là vont être des questions qui vont nous aider à avoir des réponses ouvertes. Ensuite, l'écoute active. Extrêmement important. Dans cette situation-là, vous voulez savoir, OK? Donc, ce que la personne a à dire. Donc, c'est-à-dire une écoute active, c'est de prendre des notes, c'est de demander de répéter, c'est de reformuler ce que la personne a dit et non d'être pressé de passer à la prochaine question, de ne pas écouter ce qu'elle a à dire, de se dire ça, c'est la prochaine question qu'il faut que je pose. Portez attention au non-verbal. Extrêmement important parce qu'on le sait, Sylvain l'a dit, c'est des situations qui sont touchées parce qu'en réalité, on veut recevoir un feedback et ça permet aux gens de nous offrir une critique aussi. Donc, des fois, c'est inconfortable, mais si on voit que la personne n'a pas ce confort-là, souvent, le physique va parler beaucoup sur est-ce qu'elle est en train de se maintenir, est-ce qu'elle est fermée. Donc, de porter attention à ça. Et finalement, il y a le dernier élément qu'on appelle le suivi sur les réponses. Donc, oui, on rencontre notre 20-80, mais l'objectif est, avec cette opportunité-là de pouvoir partager, de pouvoir avoir une critique, de pouvoir avoir une rétroaction, c'est de voir aussi, finalement, est-ce que la personne aussi de cette rencontre-là et de mes interventions par la suite progresse? Est-ce qu'elle va chercher des résultats? Parce que finalement, si elle nous a partagé tout ça, mais qu'on sent pas qu'elle, il y a une progression avec les ajustements qu'ils ont faits. Ben là, ici, c'est peut-être pas nous complètement qu'il faut se remettre en question, mais c'est la personne qui doit remettre en question aussi son engagement envers ses objectifs à elle. Donc, ça nous permet de cibler davantage, encore mieux dans le futur, le type de soutien qu'on va être capable d'offrir à ces personnes-là. Fait que, et voilà, Sylvain, pour la section sur comment aller chercher une rétroaction pour nos engagements.
Merci Jean-Philippe. Vraiment, c'est très plein d'informations là-dedans que, justement, on peut mettre en application si on veut, justement, découvrir les angles morts. All right. Je veux terminer avec deux petits points, en fait. Donc, il parle, donc, la question qu'on doit se poser à soi-même, Jean-Philippe, t'es rendu que t'as écrit le livre. John Maxwell. La question qu'on doit se poser à soi-même, en fait, donc, est-ce que je suis en train de travailler à servir les autres ou je suis en train de travailler à mon propre bénéfice pour mes propres gains personnels? C'est sûr que la réponse doit être les deux. Parce qu'on ne va pas se mentir, je veux dire, oui, on travaille à aider les autres, mais en même temps, on sait qu'on doit s'aider soi-même, en fait. Par contre, si ce qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est plus nous qui allons toujours avoir les gains personnels, en fait, bien là, c'est là qu'on a un problème dans notre leadership, OK? Donc, vous devez, donc vous savez, quand vous servez les autres, quand vous aidez les autres à réussir, quand vous faites tout, justement, pour bien être à leur service, en fait, bien ça, par le fait même, ça vous revient et ça va être que vous aussi, vous allez en bénéficier. OK? Donc, c'est du gagnant-gagnant. Puis là, il termine, dans le fond, en nous donnant donc quatre bons conseils que j'ai aimés. Alors, il dit, au lieu de prendre du temps, en fait, pour définir c'est quoi les attentes de notre équipe, en fait, bien, prenez donc du temps pour identifier comment je pourrais les aider, en fait. Fait que quand vous regardez les gens, donc au lieu de dire, bien, ça, c'est mes attentes d'équipe, bien, regarde, prends ce temps-là pour dire, OK, comment je pourrais les aider? Par exemple, tu vois quelqu'un qui a de la misère avec ses ventes personnelles, OK? Quelqu'un qui a besoin d'aide avec le recrutement. Bien, comment tu peux aider ces gens-là? Par exemple, tu pourrais dire, bon, bien, cette personne-là, avec ses ventes personnelles, bien, assure-toi d'être dans le groupe VIP de Ricky. Tiens, vois c'est quoi les actions qu'elle fait, OK? Assure-toi d'être ami avec elle, OK? Assure-toi, donc, d'assister à tel séminaire, OK? Assure-toi d'être dans l'action. Donc, tu vas lui donner, dans le fond, les outils pour qu'elle puisse, dans le fond, mettre ça en œuvre pour pouvoir surmonter l'obstacle qu'elle fait face présentement, OK? Même chose sur le recrutement, etc. Donc, on est là pour servir les gens, pour leur donner les ressources pour qu'ils puissent bien réussir. Numéro 2, il dit, assure-toi, donc, au lieu d'avoir un œil sur ton équipe, des watchers, OK? Assure-toi qu'ils te watchent, toi, en fait. Assure-toi d'être un exemple. Fait que, bref, servez par l'exemple. Donc, par exemple, si toi, tu es l'exemple en recrutement, OK? Donc, si tu fais, par exemple, du TAM, donc trouver des gens, ajouter des gens, leur envoyer des messages, donc assure-toi de les avoir avec toi, OK? Alors, de cette façon-là, ils vont apprendre de toi de par ton exemple, de par tes résultats. OK? Si tu fais des lives, assure-toi qu'ils sont dans ton groupe, qu'ils te voient. OK? Assure-toi peut-être de les inviter à venir assister à une vente. OK? Tu comprends? Fait que bref, il faut toujours être l'exemple de son équipe. OK? Parce que c'est à eux de regarder ce qu'on fait pour pouvoir imiter donc ce qu'on fait. Numéro 3, surtout dans un MLM, je vous dirais, là, c'est tellement important. Numéro 3, donc, demander pour du feedback au lieu de leur dire quoi faire à ton équipe. Donc, au lieu de leur dire quoi faire en vente, par exemple, en recrutement, bien, demande-leur qu'est-ce qui fonctionne bien présentement pour tes ventes, ton recrutement. Et c'est là que ça va sortir peut-être que, oh, ouais, mais là, j'aurais besoin d'aide. Et là, tu vas pouvoir être là en support pour pouvoir ajouter à cette personne-là, en fait. Fait que, bref, quand tu partages, donc les gens partagent, donc leur bon coup entre eux aussi, donc ils vont aussi s'influencer les uns les autres, OK, de cette façon-là, à pouvoir prendre une action de une puis de l'appliquer pour eux dans leur entreprise. Puis numéro 4, il dit au lieu de résiste à la tentation de toujours tout faire toi-même, en fait. Apprends à déléguer. Alors, moi, je vais toujours me rappeler, donc quand j'ai commencé, donc il y a 17 ans, j'étais gérant, en fait. Puis là, Maria m'appelait, puis elle me disait, OK, là, Sylvain, là, t'es le numéro un en vente, tu sais. Puis j'étais gérant. Fait que là, elle dit, là, ce soir, c'est toi qui vas faire la formation. Puis là, elle me disait tout quoi faire, tu sais, tout quoi dire. Mais je dis, Maria, pourquoi tu la fais pas, la formation? Tu sais, ce sont tes mots. Elle dit, non, je veux que ça vienne de toi. Adapte-la un petit peu à ta sauce, mais je veux que ça vienne de toi. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à me former. Fait que les premières fois, je disais tout ce que Maria m'avait dit de faire. Après ça, je le tweakais un petit peu, je le mettais à ma façon. Là, elle me donnait un petit peu plus de corps. OK, là, tu vas le faire à ta façon. Fait que bref, de déléguer, même s'ils sont donc des nouveaux dans l'entreprise, des gérants. Donc moi, j'ai Michèle Villani dans mon équipe, ça fait 2 mois qu'elle est là, mais tu sais, elle performe bien. Fait qu'on l'a mis en charge de notre groupe de développement d'avancement, en fait. Donc c'est elle la responsable présentement, OK? Donc c'est elle la leader du groupe. Fait que bref, de cette façon-là, quand vous partagez la responsabilité avec les gens, bien, vous leur donnez du pouvoir, en fait. Alors, vous êtes aussi en train de les développer, en fait. Fait que rappelez-vous, donc, quand on veut être au service des autres, puis quand on veut couvrir nos angles morts, donc, rappelez-vous, donc, de leur demander, donc, qu'est-ce que c'est d'être de l'autre côté de la table et comment, dans le fond, on peut couvrir ces angles morts-là, bien, Jean-Philippe l'a bien défini aujourd'hui avec toutes les questions qu'on peut leur poser. Alors, encore une fois, un grand merci de votre écoute pour ce podcast. Alors, demain, il y aura le podcast Hello Fear avec Marie-Pierre, Jean-Philippe et Maria Tupperware. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain. On va couvrir donc la question numéro 6. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée!